Buenas noches, informa Jonathan Mehta para Can Radio Reca en español, en esta actualización especial de las 9 de la noche. En el sistema de seguridad, la sospecha de que el niño desaparecido, Binyamin Ajneir, haya sido secuestrado o asesinado, aumenta a medida que pasan las horas desde su desaparición. Sin embargo, no existe ninguna información de inteligencia específica que verifique esta sospecha. Nuestros reporteros informaron que no se descartan definitivamente otras líneas de investigación. Ajneir, de 14 años, salió esta mañana a pastorear ovejas solo en un área abierta en Gush Shiloh y todavía no regresó. En su búsqueda participan grandes fuerzas del ejército, el Shin Bet y unos 2.000 voluntarios. Durante las búsquedas estallaron enfrentamientos en la aldea de Al-Muayr después de que los colonos incendiaran edificios y vehículos palestinos. Un palestino murió por fuego del ejército y varios resultaron heridos. Un israelí resultó levemente herido por un disparo palestino y otros resultaron heridos por piedras lanzadas por palestinos. En el movimiento Fatah pidieron una movilización general y la repulsión de lo que definieron como el ataque de los colonos a la aldea Al-Muayr. La alerta por un posible ataque iraní, el portavoz del ejército, el general de brigada Nir Agari, dijo que nuestra defensa está preparada y sabe cómo hacer frente a cualquier amenaza y que también estamos preparados para atacar. En un mensaje inusual, la noche del viernes, Agari dijo que la conducta de Irán está agravando la situación en Medio Oriente y enfatizó que sabremos cómo actuar cuando sea necesario. El portavoz del ejército agregó que en este momento no hay cambios en las directivas del comando del Frente Interior y si los hay, se informará al público de inmediato. Con ello, enfatizó que los próximos días exigen que estemos alerta y preparados. Hace aproximadamente una hora, se lanzó una intensa andanada de unos 40 cohetes contra ciudades de la Galilea. Algunos fueron interceptados y otros cayeron en zonas abiertas. No se reportan víctimas. Nuestros reporteros informaron que en uno de los kibutzim se encontraron fragmentos de un interceptor. La red libanesa Al-Mayadin informó del lanzamiento de más de 50 cohetes. Nuestros reporteros explicaron también que Hezbollah aceptó la responsabilidad de disparar docenas de cohetes contra las bases del ejército en Kiryat Shmoná. Esta tarde, combatientes de la defensa aérea interceptaron dos drones explosivos que Hezbollah trató de cruzar desde territorio libanés. Se activó una alerta de lanzamiento de misiles y cohetes en Rabat Naftali por temor a la caída de fragmentos de interceptores. Las fuerzas del ejército dispararon contra varias zonas del sur del Líbano durante horas. En el hospital Wolfson de Jolón fue declarado muerto un residente de Yafo de 50 años que recibió un disparo esta tarde por un agente de policía fuera de servicio después de que estallara un enfrentamiento entre ellos en la carretera de la calle Yehuda Hamid. El policía resultó levemente herido en la mano, al parecer a causa de una puñalada. Nuestros reporteros informaron que se ha abierto una investigación por parte del Departamento de Investigaciones de la Policía. El Gabinete de Guerra está llevando a cabo una evaluación de la situación en el marco de la preparación para un posible ataque iraní, que según algunas estimaciones podría incluir alrededor de un centenar de vehículos aéreos no tripulados que se lanzan contra objetivos militares importantes. Los sistemas de defensa aérea en Israel y Oriente Medio han sido puestos en alerta máxima para interceptar cualquier tipo de amenaza. El gabinete está discutiendo las opciones de respuesta israelí en función de la naturaleza del ataque iraní y si abandonará el suelo de Irán. Una fuente familiarizada con el asunto dijo que entendemos que habrá una respuesta iraní con componentes significativos, habrá alarma, pero esto no va a ser un ataque importante. Continúan los enfrentamientos violentos entre las fuerzas de seguridad y los colonos palestinos, en la aldea de Al-Muayr, donde la búsqueda del niño desaparecido Binyamin Ajneir continúa hasta estas horas. Estados Unidos está aumentando sus fuerzas en la región. Una fuente de seguridad estadounidense le dijo al medio norteamericano CNN que se están transfiriendo activos adicionales a Medio Oriente para fortalecer los esfuerzos regionales de alerta y aumentar la protección de las fuerzas estadounidenses. Esto es lo que nos informaron nuestros reporteros. También hay que remarcar que por la tarde el portavoz del Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, John Kirby, afirmó que Washington cree que la amenaza de Irán sigue siendo tangible y están haciendo todo lo posible para dar a Israel la oportunidad de defenderse. Por último, como informamos anteriormente, Hezbollah, la organización terrorista Hezbollah, se adjudicó la responsabilidad de la andanada de cohetes hacia el norte de Israel. Hasta aquí informó Jonathan Mehta para acá en Radio Reca en español. Nosotros volveremos a encontrarnos mañana, sábado, con un nuevo flash informativo a las 9 de la noche. Mientras tanto, Shabbat Shalom de Yerushalayim.
בוקר חדש, אני יוצא לנגב את הדמעות מהכרית שאת השארת. זאת תקופה ארוכה שאני מרגיש ואת קצת משתנה, ואיך את עכשיו רחוקה. בואי לא נשכח את כל חדש, אני יוצא ליצון בשבילים למרות שאת הלכת, את מופיע בחלומות הריקים. אם את לבד עכשיו, תני לי סימן להתקרב. בגעת ונשאר פצע בלב, למרות הכל אותך אני אוהב. בואי לא נשכח את כל הלילות המתוקים שליוו אותנו את כל הלילות המתוקים שליוו אותנו כל כך הרבה שנים. בואי לא נברח מכל החלומות שלא נתנו לה מנוחה. בואי לא נשכח מ
Nous apprêtons à honorer la mémoire du sergent-colonel Sivan Veil, mort hier en héros, succombant à ses blessures de guerre. Sivan, que sa mémoire soit bénie, originaire de Re'anana, servait dans l'unité d'Egoz et n'était alors âgé que de 20 ans. David Dijon, un ami proche de la famille Veil, nous fait l'honneur de nous parler de Sivan sur Canon Français. Bonsoir David Dijon.
Bonsoir.
Merci beaucoup encore d'avoir accepté notre invitation. Alors tout d'abord, est-ce que vous pouvez nous parler de Sivan ?
De Sivan, je pourrais en parler des heures, parce que Sivan, je l'ai connu dès la naissance. C'est une histoire de sionisme, c'est une histoire d'alias, c'est une histoire de, ses parents ont fait l'alliance en 1998, jeune couple, et se sont mariés en Israël et ont eu quatre beaux enfants. Sivan était le deuxième de la fratrie. Et il a grandi en fait en parallèle avec mon fils. Il avait exactement le même âge et donc depuis l'âge de on les a vus grandir ensemble. Et donc voilà, Sivan était un garçon que tout le monde décrit comme aujourd'hui je sors des Shiva, on était jusqu'à maintenant au Shiva et tout le monde raconte la même chose. C'est quelqu'un qui était un enfant qui semblait comme ça un peu timide, mais en fait dès qu'il était dans son milieu avec ses copains, c'était un blagueur. Un de ses copains disait hier pendant l'enterrement que c'était sa plus mauvaise blague, c'était hier le 1er avril de se faire enterrer le 1er avril. Et c'est un peu comme ça le destin qui nous a souri, mais donc voilà. Donc et puis donc voilà, c'est un enfant qui a grandi à Ranana et à l'école Tali, puis et qui aimait le sport, jouait beaucoup au basket, au foot, et puis en grandissant, c'est cette génération là a toujours cherché l'excellence dans tout ce qu'il faisait, et ils se sont tous poussés les uns les autres. C'est une bande de copains qui ont grandi aussi aux AID, au groupe local de Ronarad, depuis l'âge de 8 ans, qui chaque année partait faire des camps en France pour représenter Israël. C'était leur vraie fierté aussi d'être déjà sionistes, et donc chaque année ils allaient en France. Donc voilà, ils étaient un groupe de copains, et ils allaient en classe ensemble, ils allaient aux AID ensemble, ils partaient en vacances ensemble. Nos familles étaient tous proches, nos familles étaient ensemble, parce qu'on n'avait pas de famille ici, donc on a tous créé comme ça, on s'est recréé une famille, donc on passait les Shabbats ensemble, on passait les fêtes ensemble, et donc voilà, nos enfants ont vraiment tous grandi ensemble, et avec les mêmes valeurs de sionisme et d'avoir envie de donner au pays. Et donc Sivan, quand il a commencé à réfléchir à l'armée, bah, pour lui c'était une évidence qu'il fallait choisir le top du top. Et donc voilà, il s'est préparé, il s'est entraîné pendant un an et demi pour être pris dans les unités d'élite, et il a été pris à Egoz.
Alors vous pouvez pas me voir, mais je souris doucement de tout ce que vous racontez, tant vos paroles me touchent sur Sivan, c'est extrêmement émouvant. Alors vous avez commencé à nous parler de son service, est-ce que vous pouvez nous en parler un peu plus?
Et ben en fait, à partir du moment où il a été pris dans cette unité, c'est comme si c'était une fleur qui s'est épanouie. Il s'est ouvert. On a vu un autre Sivan prendre confiance en lui. Je parlais au début d'un enfant comme ça, un peu timide, un peu réservé. Puis là, vraiment, on le voyait heureux. Il avait peur de rien. Il avait vraiment épanoui à tous les niveaux, beaucoup plus parlant, beaucoup plus racontant, beaucoup plus partageant. Et pour ses copains, c'était quand il nous raconte Sivan, parce que c'est vrai que la force des Sivan, c'est aussi de partager et d'entendre des choses que voilà, les enfants nous racontent peut-être pas toujours, nous, à nous, les parents. Mais voilà, ils nous ont dit, voilà, c'était un autre Sivan. À partir du moment où il est rentré à l'armée, c'était un autre Sivan, et que c'était, voilà, qui était un fêtard, qui était devenu un fêtard, qui profitait de chaque moment de la vie, et qui était dans, voilà, qui aimait rigoler, qui aimait boire, qui aimait faire la fête quand il revenait, puis quand il fallait être avec à l'armée, il était ses copains d'armée nous racontent que il était le premier à rendre service, le premier. On revoyait des photos et des films tout à l'heure pendant la Shiva, et on le voit dans sa Masakunta, il est le premier, il tient la Anka et il pousse son équipe. Et voilà, et puis Sivan, c'est ce qui est incroyable, c'est que il a passé une première période de 60 jours presque à Gaza sans rentrer. Et puis un jour, un coup de fil au milieu de la nuit pour prévenir qu'il sort d'urgence de Gaza parce qu'il a l'appendicite, une appendicite qui s'est aggravée dans les conditions sanitaires de Khan Younes, et donc il est ramené d'urgence à l'hôpital pour le soigner de l'appendicite, et il passe et donc il va passer un mois et demi à la maison. Ce que tout le monde appelle, ses parents, ses amis, sa famille, le cadeau du ciel d'avoir ce mois et demi avec lui. Il a eu, c'est complètement incroyable. Il a rencontré son premier amour, enfin je ne sais pas si son premier, en tout cas, il a rencontré Yali, qui était sa petite amie ce dernier mois et demi. Une très belle histoire d'amour, et Yali a été tout accepté par la famille, enfin voilà, et par les copains. Et puis dès qu'il a commencé à se sentir mieux, il l'a dit à tout le monde, j'y retourne, mes copains, ils ont besoin de moi. Et même si je pourrais profiter de dire que j'ai, voilà, je pourrais avoir des guillemets libres ou encore. Non, mes copains, ils ont besoin de moi. Et donc, je vais y retourner. Et donc, il est retourné. Et il est retourné il y a une quinzaine de jours à Gaza, enfin, autour de Gaza, en attendant la mission. Et puis, il y a eu jour. Il est rentré pour l'opération autour de l'hôpital à Al-Aman et c'est là que le tragique est arrivé.
Alors déjà avec tout ce que vous venez de nous dire, vous avez décrit un véritable héros et ça fait il y a une part de consolation à se dire qu'il était tant épanoui dans son unité quand il est rentré à l'armée et qu'il a eu aussi c'est incroyable ce mois et demi finalement de où il était à la maison et qu'il a pu rencontrer il a pu vivre une histoire d'amour, qu'il a pu être encore avec ses parents. J'ai des frissons partout.
Et ben je vais continuer à vous en donner en ajoutant aussi une dernière chose qui est aussi un dernier peut-être cadeau de Dieu, en tout cas un cadeau de Sivan, c'est que donc il a été blessé très très grièvement au cerveau mais il a quand même continué on a encore été au Sassour Chevet pendant 48 heures depuis vendredi jusqu'à dimanche, ce qui a permis à sa maman qui était partie pour le travail de rentrer, de pouvoir se séparer, puis à nous tous de passer encore des moments avec lui, de lui dire ce qu'on avait à lui dire, de le remercier pour ce qu'il était, et puis surtout, parce que maintenant on peut le dire, il a permis de sauver la vie de 5 personnes puisque ses organes ont été redonnés et que il a été annoncé aujourd'hui que c'était 5 personnes qui avaient vu la vie se prolonger grâce aux organes de Sivan et j'envie celui qui a eu la chance d'avoir le cœur de Sivan entre autres.
Même dans sa mort il a réussi à continuer son combat, sa mission et à sauver des gens. C'est tout simplement quoi, voilà. C'est un sacrifice aussi de la part des parents. Enfin, c'est magnifique aussi d'avoir accepté.
C'était pour la famille, je crois, une évidence quand il leur a été dit qu'ils avaient cette possibilité, que les organes n'étaient pas touchés, qu'ils pouvaient sauver des vies. Je crois que pour la famille, c'était une évidence, que c'est ce qu'aurait voulu Sivan, et que donc ils ont accepté sans aucune difficulté. Voilà, je pense que voilà, c'est le Sivan de toute façon qu'on a tous en tête, c'est le Sivan qu'on aimait, c'est le Sivan qu'on va continuer à aimer, c'est le Sivan voilà. Donc il est d'usage de dire quand on parle de jeunes qui tombent que ce sont des héros d'Israël. Alors sans doute qu'il est un héros d'Israël, c'est sans doute il est un héros du peuple juif, mais d'abord il est le héros de ses parents et de sa famille, ils peuvent en être très très fiers, mais il est aussi notre héros à nous, de notre bande de copains, et pour nous vraiment c'était une chance de pouvoir le côtoyer, et je suis voilà, je pense à tous ses copains qui ont eu la chance de grandir avec lui, et je sais que pour eux ça sera une perte indicible, et c'est vrai que ça nous pose des questions à nos parents, de se dire comment on peut enterrer un enfant, comment on peut accompagner nos enfants et de voir nos enfants accompagner jusqu'à leur dernière demeure leurs amis. Enfin voilà, ce sont des vraies questions, des fois qu'on se dit que le monde tourne un peu à l'envers, qu'il y a une vraie injustice, et c'est des vraies questions par rapport à nos valeurs qu'on leur enseigne. On a envie de leur donner la vie, on leur donne la vie, on a envie qu'ils aient une belle vie, et puis voilà, une réalité compliquée qui fait que...
C'est cette réalité que le peuple d'Israël vit depuis le 7 octobre, et donc depuis 6 mois maintenant, et tout simplement insoutenable. On entend tant d'histoires, comme vous avez dit, tant d'histoires de bravoure, d'héroïsme, et à chaque fois le cœur saigne et souffre toujours de la même manière.
C'est je pense la chance d'Israël d'avoir une génération en or telle qu'elle est, mais à nous les grands, à nous de pouvoir être dignes d'eux, et puis d'essayer de faire en sorte qu'on leur offre un avenir meilleur, et je ne sais pas, et puis surtout moi je ne suis rien, je ne suis aujourd'hui qu'un ami de la famille, j'ai envie que ça soit aussi un appel à nos dirigeants d'être pouvoir être dignes de cette génération, et de pouvoir faire tout ce qui est en leur mesure pour pouvoir voilà, on n'a pas à sacrifier des vies, on n'a pas à sacrifier cette génération. Ils ont un vrai parcours, une vraie vie à construire, et sans doute un avenir meilleur pour Israël.
Alors, David, pour le mot de la fin, comment souhaiteriez-vous qu'on se souvienne de Sivan?
Bah, nous on va essayer de s'en souvenir des bons moments qu'on a repassés avec lui. On va sans doute avec la famille réfléchir à faire plein de choses. Comme disait son frère aîné, Nathan, que c'est la mission de sa vie de rappeler le souvenir de son frère. Mais je pense que c'est aussi une mission que l'on aura tous, de se rappeler que il aimait rire, il aimait la vie et qu'il faut continuer à sacrifier la vie. Faire en sorte qu'il soit pas mort pour rien et qu'ensemble, tous ensemble, malgré nos divisions, malgré nos avis différents, on arrive à pouvoir créer les divergences dans la société, on arrive à créer un Israël meilleur dans lequel nos jeunes ont un espoir, une vie à construire et de belles choses à créer avec de belles valeurs et des belles midotes, comme l'en avait Sivan.
David, merci beaucoup. Alors, c'était sans doute l'une des interviews les plus belles et les plus émouvantes qu'on a eues sur la chaîne. Merci de nous avoir fait l'honneur de nous parler de Sivan et qu'on ait pu le connaître à travers ses histoires. On a une forte pensée pour la famille Veil, pour les amis proches. Et on espère entendre des bonnes nouvelles. Merci encore.
Merci à vous.
Bonne soirée.
J'ai maintenant le plaisir de retrouver Guy-Philippe Goldstein. Bonsoir Guy-Philippe.
Bonsoir Yaël.
Merci d'avoir accepté d'être l'invité de cette édition. Je rappelle que vous êtes enseignant à l'école de guerre économique et conseiller pour PwC. Vous êtes aussi un spécialiste de beaucoup d'autres choses. On va parler ce soir de l'usage de l'intelligence artificielle par Tsahal. Faisons d'abord le point sur Lavender qui a fait couler beaucoup d'encre depuis le début de la guerre à Gaza.
Oui, parce que comme vous dites Yael, on a reparlé encore de ce sujet qui, il faut le dire, est assez fondamental, non seulement pour Israël, mais pour toutes les armées modernes aujourd'hui, à savoir l'utilisation de l'intelligence artificielle, avec certaines de ses nouvelles formes. Et donc, il y a un article qui est sorti de 972 Mag, qui est parfois une source un petit peu orientée, on va dire ça comme ça.
Juste pour ceux qui ne savent pas ce que c'est 972 Mag, c'est un...
C'est un blog de journalisme avec, on va dire, un centrage qui est relativement pas nécessairement en faveur d'Israël, mais il faut écouter toutes les voix, et avec des journalistes qui sont pour le coup aussi israéliens. 972 Mag avait déjà évoqué plusieurs systèmes d'intelligence artificielle qui sont utilisés par l'armée, dont un logiciel qui s'appelle Abzora, qui permet l'identification de certaines cibles géographiques, de certains bâtiments. Un autre très intéressant pour en parler, qui s'appelle Fire Factory, qui permet en fait d'identifier très rapidement des cibles de tir, une fois l'identification de schémas de tir, une fois l'identification de cibles effectuées. Ça pourrait prendre normalement plusieurs heures de savoir, tiens, j'ai identifié une cible, et puis ça va passer par tel avion ou par tel drone. Et là, potentiellement avec l'IA, au lieu que ça prenne plusieurs heures, ça pourrait prendre quelques minutes. Et ça, c'est très important dans les opérations militaires, parce que ce qui permet en fait de traiter la cible plus vite et donc de gagner. Et puis d'autres éléments. Là, ce qui avait été mis en avant, c'est donc Lavender, qui est un logiciel qui permet non pas de cibler des bâtiments, comme le fait Abzora, mais de cibler des personnes. Et en particulier donc des militants armés, qu'ils soient seniors, qu'ils soient juniors du Hamas. Et dans l'article qui était évoqué, plus de 37 000 militants qui avaient été ciblés. Et derrière ça, la capacité à prendre la décision de tir de façon quasi automatisée, sans même nécessairement qu'il y ait un visu humain ou que cette décision humaine de tir en fait soit prise d'une façon trop rapide. C'est un petit peu ce que laisse entendre l'article. Donc là, il y a beaucoup de questions qui sont ouvertes. Ouais. Une chose qui est certaine, c'est que oui, évidemment, non seulement l'IA est utilisée, mais on est passé à des éléments d'identification des personnes qui peuvent être des militants armés. C'est d'autant plus nécessaire, il faut le dire, dans le contexte de la guerre contre le Hamas, que le Hamas ne respecte pas les lois humanitaires de la guerre qui nécessitent une identification claire du personnel combattant par rapport aux civils, puisque la manière même de faire la guerre du Hamas, c'est de mélanger tout ça et d'avoir des militants armés qui sont habillés comme des civils. Donc il y a une nécessité pour essayer de traiter ces cibles-là, d'être capable de mieux les identifier. Il y a des logiciels qui sont utilisés. Il y avait un article du New York Times qui l'évoquait, le logiciel qui s'appelle Corsite, qui utilise la reconnaissance faciale pour s'assurer qu'on est bien face à des militants armés, puisque à nouveau le Hamas ne veut pas que ces distinctions-là soient faites avec les civils. Bon. Et donc derrière, la conversation, la discussion, c'est est-ce que Lavender, entre guillemets, aurait trop ciblé? Est-ce que Lavender aurait d'ailleurs accepté un taux de ciblage de risques, on va dire de dommages collatéraux et donc de risques de perte civile qui serait trop élevé par rapport aux enjeux que constitue le fait de cibler des militants armés du Hamas? Il y a une question qui est très ouverte. On ne le saura probablement pas maintenant. Tout ce que l'on peut constater, c'est de regarder tout simplement les chiffres tels qu'ils sont présentés à la fois par Tsahal et à la fois d'ailleurs par le Hamas, et de constater que ce que dit Tsahal, à savoir qu'il y a eu 13 000 militants armés du Hamas qui ont été neutralisés, tués par l'armée. si je fais les calculs qu'évoquent 972 Mag et la Vendeur, où il est évoqué qu'il y aurait plus de que pour chaque, enfin en tout cas que pour certains cas de militants armés, on aurait accepté des pertes de 15 à 20 civils, voire même parfois de plus de 100 civils. Donc on pourrait calculer un nombre extrêmement élevé de pertes civiles par rapport au nombre de militants armés qui auraient été tués. Bah, en réalité, dans les chiffres tels qu'ils apparaissent, y compris lorsqu'on utilise des chiffres du Hamas, on n'arrive pas à ce type de rapport de force.
Donc,
on peut dire que on ne sait pas exactement à quel point Lavender a été utilisé. Si Lavender a été utilisé, ce n'est probablement pas de la manière dont c'est décrit dans 972 Mag, à savoir que soit ça a été peu utilisé, soit ça a été utilisé, mais en faisant quand même assez attention au nombre de pertes civiles, parce qu'on n'est pas du tout dans un rapport de une perte militaire pour 10 morts civiles ou 20 morts civiles ou même 100 morts civiles, du tout. Et on n'est évidemment pas, on n'est même pas à 37 000 Palestiniens tués, puisque même le Hamas dit qu'il n'y en a eu que 33 000 qui ont tué. Donc tout ça pour dire que si on fait un petit peu de calcul, ouais, il y a probablement beaucoup d'exagération dans cet article. Des échos qu'on peut avoir avec ce que dit Tsahal, il est assez clair que quoi qu'il arrive, il y a des opérateurs humains qui sont dans la boucle pour savoir si les opérations de tir sont autorisées ou pas. Donc, à nouveau, il y a probablement beaucoup d'exagération dans cet article de 972 Mag. Ce qu'il faut être sûr, et ça, il faut que les éditeurs en soient convaincus, c'est que, quoi qu'il arrive, d'une part, l'intelligence artificielle est un moyen que l'on voit et dans le monde civil et également dans le monde militaire qui est déjà en très large partie utilisé et qui va être extrêmement répandu. Donc, quoi qu'il arrive, il y aura une utilisation de cet usage de l'intelligence artificielle. On en est peut-être qu'au commencement. Et que d'une certaine façon, et c'est peut-être aussi ce que révèle cette conversation, cette polémique autour de l'utilisation de Lavender, c'est que, in fine, comme il y aura toute la donnée sur la manière dont les outils ont été utilisés, ce qui va être encore plus fort avec l'usage de l'intelligence artificielle, c'est qu'on sera capable de bien tracer après coup, s'il y a des retours d'expérience, et ça pour le coup Israël et l'armée et ça le fait systématiquement, eh bien on sera capable de bien voir comment ces systèmes d'armes nouveaux ont pu être utilisés, puisque grâce au système d'information, grâce à l'intelligence artificielle, eh bien on est capable de tout tracer. Donc ça, c'est quand même l'avantage très fort qu'on pourra avoir en plus avec ces systèmes d'armement.
Alors, il y a un lien, j'imagine, intrinsèque entre l'intelligence artificielle et la cybersécurité.
Oui, alors parce que ça, c'est l'autre grand sujet, et je l'évoque parce qu'en ce moment, il y a CyberTech à Tel Aviv, qui est l'une des plus grandes manifestations sur la cyber. Et là aussi, évidemment, on a beaucoup parlé d'intelligence artificielle liée à la sécurité des systèmes d'information, à la cybersécurité, parce que là, encore une fois, il y a une intrication très forte des deux domaines. Il y a de plus en plus de start-up de cybersécurité, y compris en Israël, qui se créent pour essayer de sécuriser les systèmes d'information qui sont créés autour de l'IA. On a même entendu parler d'une start-up qui s'appelle Sierra, qui est une start-up basée aux États-Unis, mais où l'essence des effectifs, c'est des Israéliens, dont des Israéliens qui viennent de l'armée, et qui viennent de lever très rapidement beaucoup d'argent, et qui est une start-up où l'IA joue un rôle prépondérant, une start-up dont l'objectif est de faire de l'assurance de la protection des données qui sont utilisées. Et qui est d'ailleurs l'une des toutes premières, peut-être la première start-up de cybersécurité à avoir atteint la valorisation de 1 milliard de dollars, ce qu'on appelle une licorne, depuis 2022. Donc ça, c'est un point très intéressant. Et sur le papier, c'est une start-up américaine, mais en réalité, c'est une start-up israélienne. Et ça montre bien l'évolution du domaine où, effectivement, l'IA va jouer un rôle de plus en plus important. Dans un environnement, où ça a aussi été rappelé lors de CyberTech, où eh bien, effectivement les tensions liées à la cybersécurité sont extrêmement fortes depuis 7 octobre. Ça, ça a également été rappelé. On a évoqué des responsables de la cybersécurité israélienne, dont David Portnoy, qui dirige le National Cyber Directorate, l'Agence nationale de cybersécurité pour Israël, a évoqué une augmentation du nombre d'attaques d'un facteur x2, x3. Et donc, face à cette masse-là aussi, on utilise beaucoup l'IA. On l'utilise en Israël et d'ailleurs, ça a été aussi évoqué lors de CyberTech, on utilise cette IA en coopération avec d'autres pays. Et on a mis en avant, par exemple, le projet Crystal Ball, le cristal en français, qui a été développé entre Israël et les Émirats Arabes Unis et Microsoft. Ça, c'est très intéressant parce que c'est à la fois diplomatique, interétatique, mais également public-privé, puisqu'il y a un bout de Microsoft, et qui utilise l'IA pour faire un meilleur échange d'informations face justement à cette menace qui est très forte et qui, pour dire les choses, pour Israël, où à nouveau, le principal danger, c'est cette menace cyber qui vient de l'Iran et du Hezbollah.
Alors, puisqu'on parle de l'Iran et du Hezbollah, je voudrais avoir votre réaction, même si je sais que vous n'êtes pas prophète, malheureusement pour nous. Vous qui connaissez bien les relations internationales avec l'Iran et d'autres pays, et le conflit de longue date entre l'Iran et Israël et les États-Unis, quelle est votre estimation de la riposte iranienne qu'Israël attend? Selon les États-Unis, Bloomberg, ça vient de tomber. Il paraît que c'est incessamment sous peu, là.
Alors, il faut noter plusieurs choses. Donc, c'est évidemment en réponse à l'attaque du 1er avril qui a tué le général Mohamed Reza Zahedi et 6 autres membres du corps des gardiens de la révolution islamique et d'ailleurs d'autres personnes. Il y a une forme de temporisation légère de la part de l'Iran. Mais effectivement, tout le monde évoque la possibilité d'une riposte dans la semaine qui vient.
Après Eid al-Fitr, qui a commencé hier, aujourd'hui.
Voilà, hier. Exactement. Là-dessus, quel type de riposte pourra avoir lieu? Bon, certaines sources évoquent une attaque directe qui viendrait de l'Iran. Titre personnel, ça serait quand même un élément d'escalade, sachant que dans ce cas-là, il faudrait s'attendre à une riposte peut-être d'une nature très forte de la part d'Israël. Et que dans ce cadre-là, on serait quand même dans un élément potentiel d'escalade. Or, l'Iran, aujourd'hui, n'a peut-être pas envie, en fait, d'une escalade, pour plusieurs raisons. L'une des raisons, mais faut le dire, qui est potentiellement terrible, c'est que l'Iran veut aller jusqu'au bout
de
son programme nucléaire, absolument. Et donc, s'engager tout de suite dans une escalade, voilà, c'est en fait mettre en danger les joyaux de la couronne, à savoir effectivement les installations nucléaires. Donc, peut-être que l'Iran n'a pas envie d'aller jusque-là. Et puis, il faut le dire aussi, la situation au Liban n'est pas complètement stable. Et il n'est pas sûr que s'il y avait là aussi un engrenage avec le Hezbollah, eh bien que même le Hezbollah, par rapport à la situation libanaise, puisse s'assurer d'un contrôle total du Liban. Donc là aussi, il y a beaucoup de pièces qui bougent. Donc, bon, ce qu'on peut dire avec les informations qu'on a, c'est que oui, il y aura une riposte parce que le coup qui a été porté à l'Iran est juste en termes de crédit de la puissance iranienne trop dure, donc l'Iran va essayer de riposter. À titre personnel, je serais très surpris, rien n'est impossible, je serais très surpris s'il y avait une escalade très forte. Ce qui est possible, malheureusement, ce qu'on a déjà vu, c'est soit passer par des groupes auxiliaires, des proxys qui vont lancer des drones, qui vont lancer, voilà, soit du terrorisme, comme on a déjà vu. Le mois dernier, au Pérou, la police péruvienne a arrêté des officiers des forces Al-Quds qui préparaient apparemment un attentat terroriste contre les officiels israéliens dans le cadre d'un forum de coopération Asie-Pacifique qui aurait lieu au Pérou. On sait que des cellules terroristes avaient été démantelées en Turquie, des cellules terroristes iraniennes pour faire ce même type d'opération. On connaît l'histoire du terrorisme agité par l'Iran, que ce soit en Argentine, que ce soit dans des opérations il y a plus d'une dizaine d'années qui ont échoué en Thaïlande, en Inde, etc. C'est peut-être aussi là auquel il faut s'attendre une forme de riposte de l'Iran.
Guy-Philippe Goldstein, merci beaucoup pour cette analyse et cet entretien, et on espère à très bientôt sur les ondes de Canon français.
Avec très grand plaisir, Yael.
Voyage en absurdie que je fais lorsque je m'ennuie. J'ai imaginé sans complexe qu'un matin je changeais de sexe, que je vivais l'étrange drame d'être une femme. Les femmes sont des hommes à temps plein. Fini les revendications. Ce qu'elles ont voulu, maintenant elles l'ont. Ce sont toutes des femmes accomplies, sans vraiment besoin d'un mari. Femmes capitaines de société, elles ont d'autres chats à fouetter. De conseils d'administration, de longs dîners en réunion, passer en coup de vent chez le coiffeur, se maquiller dans l'ascenseur. Elles rentrent épuisées tous les soirs. La télé, elles veulent plus la voir. À peine la coupe d'un magazine et un cachet qui les assassine. N'y pense plus, juste un amant qu'elle ne revoit plus. D'ailleurs, c'est un acte manqué quand leur portable se met à vibrer. Pour la nostalgie d'autrefois, faudrait du temps, elles n'en ont pas. Elles y reviendront évidemment avec le premier cheveu blanc. 30 années se sont écoulées, ont-elles perdu ce qu'elles ont gagné? Elles étaient femmes en 80 et femmes jusqu'au bout des seins. Question salaire, ça ne va pas mieux. Celui d'un homme coupé en deux, on les enfume de parité, mais qui promet l'égalité? sais que beaucoup en ont marre, mais il n'est pas encore trop tard. Il suffit de retrouver l'adresse du type gâché dans leur jeunesse. Un homme gentil qu'elles ont laissé au bord des occasions manquées. Refaire sa vie et pourquoi pas être une femme et belle à la fois. L'amour d'automne c'est encore mieux, laisser un homme faire ce qu'il veut et puis s'endormir contre lui, jeter les dossiers aux orties, se dire qu'au fond ce sont des femmes et mon Dieu ce n'est pas un drame. Femme de n'importe quelle année, femme pour aimer, se faire aimer.
derrière elle, des milliers de ronds dans l'eau. un manège de lune avec ses chevaux d'étoiles, comme un anneau de Saturne en ballon de carnaval, comme le chemin de ronde que font sans cesse les heures, le voyage autour du monde d'un tournesol dans sa fleur. Tu fais tourner de ton nom tous les moulins de mon cœur. Ce jour-là, près de la source, Dieu sait ce que tu m'as dit, mais l'été finit sa course, l'oiseau tomba de son nid, et voilà que sur le sable, nos pas s'effacent déjà. Et je suis seule à la table qui résonne sous mes doigts comme un tambourin qui pleure sous les gouttes de la pluie, comme les chansons qui meurent aussitôt qu'on les oublie, et les feuilles de l'automne rencontrent des ciels moins bleus, et ton absence leur donne la couleur de tes cheveux. Comme une pierre que l'on jette dans l'eau vide d'un ruisseau et qui laisse derrière elle des milliers de ronds dans l'eau, au vent des quatre saisons, tu fais tourner de ton nom tous les moulins de mon cœur. As the images unwind, like the circles that you find in the windmills of your mind.